Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.
Il fait beau et doux. La route n'a pas de circulation. Que l'on a envie de rouler pendant des heures, mais pas du tout envie d'aller retrouver son monsieur Satonnet et sa vie insignifiante. Il arrive devant la maison, plutôt devant la villa, qui se trouve au bord du lac. Une maison toute blanche, d'un étage, avec grande baie vitrée. Devant la maison, il y a une immense pelouse. Nicolas sonne au portail. Une petite bonne accourt de la maison au portail. Elle ouvre le portail et demande « Vous désirez, monsieur ?»«
Je suis monsieur Scrap. J'ai eu rendez-vous avec monsieur Satonnet. »«
Oui, monsieur. » »«
Vous pouvez entrer. »
Il entre, il ferme le portail derrière lui et le mène à la maison. Colin se dit que c'est toujours aussi cérémonieux qu'à son bureau. Elle va le faire entrer dans la maison par une porte, double porte-fenêtre, vitrée.
Entrez, monsieur.
Il entre. d'un hall d'entrée qui donne sur des escaliers en pierre. La jeune bonne monte les escaliers. Nicolas attend. Puis, il voit arriver à lui, qui descend les escaliers, Monsieur Satonnet en pantalon et chemise blanche. Bonjour, Monsieur Scraff.
Bonjour, Monsieur Satonnet.
Avez-vous fait bon voyage?
Oui, monsieur, excellent.
Très bien. Venez, je vais vous présenter à ma femme. Laissez votre valise. La domestique le montrera à votre chambre. Et il suit Monsieur Satonnet, qui le mène en dehors de la maison. En dehors de la maison, ou plutôt derrière la maison, face au lac, sur un terre-plein, se trouve une table de jardin et des chaises. Là, assise, une femme dans les 25 ans, grande, mince, cheveux longs qui ondulent, châtains, lèvres pulpeuses, yeux bleus profonds. Elle est grande, mince, porte une robe de plage blanche, un chapeau blanc aussi. Nicolas voit qu'elle a un corps magnifique, avec de grandes jambes minces et lisses. Son mari lui dit:
je te présente Monsieur Scraff, Nicolas. Tu sais, le cinéaste dont je t'ai parlé.
Monsieur,
madame, Nicolas se demande comment cet homme a-t-il pu faire pour se marier avec une femme aussi belle et plus jeune que lui. Elle dit à Nicolas: asseyez-vous. Il s'assoit en face d'elle. Elle dit au mari: faites apporter à boire. Le mari s'éloigne, retourne à la maison.
Alors, c'est vous le célèbre cinéaste qui allait faire un film sur la vie de mon mari?
Je vais essayer, madame, et sourit lui dit.
Ne me plaît pas, madame, mais Françoise, ici, nous sommes dans l'intimité.
Le mari revient avec la domestique qui porte le plateau à boisson. Elle dépose sur la table et repart. Le mari s'assoit à côté de sa femme et demande:
vous désirez boire un apéritif, du jus de fruits, un café?
Du jus de fruits, un jus de tomate, la femme dit.
Moi aussi.
Et le mari sert 3 jus de tomate. Nicolas voit que sa femme le regarde avec insistance. Après avoir bu, le mari leur dit:
venez, nous allons nous promener un peu.
Que l'on se lève. La femme leur dit:
vous me laissez toute seule, je ne peux pas venir avec vous. Je dois attendre les Durieux qui doivent nous vendre le bateau.
Ah oui, c'est vrai. Eh bien, tant pis, vous resterez ici, ma chère. Il faut bien que je m'occupe de mon hôte.
Bien, à bientôt.
Et les deux hommes la quittent. Nicolas suit M. Satonnet qui lui fait prendre un petit chemin qui longe le lac. Il lui dit:
ma femme est charmante. Nous sommes rencontrés à Deauville. Elle était chez des amis. La rencontre sera à mettre dans le film.
Nous sommes rencontrés dans une soirée. Elle m'a tout de suite plu. Elle était complètement perdue. Elle avait égaré son sac. Plus d'argent, plus rien. Et personne pour l'aider.
Ses amis l'avaient abandonné. La voyant sans ressources, j'ai pris sur ma protection. Elle ne m'a plus quitté. Elle est orpheline. Quant à sa fortune, je n'ai jamais su. Mais qu'importe. Je me suis mis à l'aimer de suite, cette petite Cendrillon. Et je vois bien la chose dans le film. Une femme seule et désespérée, sans argent, qui rencontre un homme bon et l'aime. Il faudra tout de même en faire une petite fille riche, la présenter dans une belle robe de soirée et que le rôle soit joué par une belle actrice. Vous comprenez, c'est à cause de ses amis. Si on la montre en souvent, on se moquera d'elle. Françoise qui les a menés à table pour le déjeuner qu'ils prenaient en dehors sur la terrasse. Viola se dit que cette belle femme moderne, élégante, lorsqu'il l'a trouvée devait être une pauvre fille sans charme. Le repas se passe gentiment. Le repas, M. Satonnet leur dit « Je vais faire une petite sieste. Je vous laisse, ma femme. J'ai la digestion difficile. » Il entre à la maison. François se lève et dit à Nicolas « Venez, nous allons au bord du lac. Nous serons mieux pour parler. » Et il la suit. Ils vont au même endroit que ce matin et s'assoivent. Elle lui dit « Alors, vous voulez faire un film sur sa vie ?»«
Je vais essayer. » »«
Je vous plains. Moi, ça fait 10 ans qu'il me raconte son histoire. »« Quelle connerie! Monsieur est fier de sa vie, d'avoir réussi. »« En réalité, c'est qu'un pauvre type. »«
Vous êtes choqué de m'entendre parler comme ça ?»
J'ai l'habitude, vous savez.
Vous voulez savoir pourquoi il s'est marié avec moi?
Parce qu'il vous aimait. Elle hausse les épaules et lui dit.
Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Aucune fille n'aurait voulu de lui. Moi, j'ai bien été obligé de l'accepter. J'étais dans le pétrin, sans argent. Mais les autres n'auraient jamais voulu une chose pareille, une chose creuse. Monsieur est impuissant. Et oui, l'homme si fier de lui-même, de sa réussite, est impuissant. Un beau sujet de film, hein? Mais de ça, il ne faut pas en parler. Il faut montrer que sa réussite de façade. Je me suis marié avec un bois mort. Vous voulez boire ?
Non, merci.
Moi, je me sers un verre de scotch.
Il lui dit, divorcez si vous êtes si malheureuse.
Et comment vivrai-je?
Vous aurez une pension, puisqu'il n'a pas consommé le mariage, c'est lui qui est auteur. Et son père lui dit,
il me donnera que des miettes, moi j'aime mieux attendre.
Il a 25 ans de plus que moi, il est encore jeune.
Je sais, mais il a contracté une assurance sur la vie à mon nom. Et j'hériterai tout de suite. Mais comme vous dites, je suis jeune. Je ne veux pas attendre indéfiniment.
Nicolas se dit, attention, je ne veux pas tourner assurance pour la mort où le facteur sonne toujours deux fois. Il voit y arriver le mari qui va vers eux et leur demande,
qu'avez-vous fait?
Rien, nous parlions de ta vie, mon chéri.
Bon. On boit un petit quelque chose et puis je vous amène jouer au golf.
Vous savez jouer?
Oui.
Bon, alors, vous voulez du bourbon, du scotch?
Un bourbon, merci.
Ils ont joué au golf toute la journée. Françoise a cessé de le regarder du coin de l'œil.
Nicolas se dit que s'il pouvait, il mettrait dans le film ce qu'elle lui a dit. La femme et la scène qu'il a eue, cela fera un très bon film. Malheureusement, c'est impossible de montrer l'histoire d'un grand homme heureux avec une belle femme, honnête, etc.
Le soir, elle a invité quelques amis pour une soirée. Ce sont pour la plupart des Lyonnais, hommes d'affaires, des gens qui ne n'ont qu'un sujet de conversation, leurs affaires.
Il y a eu le repas. Elle est assise en face de Nicolas, qui en quelque sorte l'hôte d'honneur. Nicolas trouve qu'elle s'ennuie. Elle ne cherche pas à se mêler à la conversation et répond à peine, mange presque pas. Quant au mari, lui, boit et mange pour deux. Il est d'une très grande exubérance. Il veut prouver à ses invités qu'il est en plus un homme d'affaires, un intellectuel. La preuve, on fait un film sur lui. Une femme dans les 40 ans, osseuse, cheveux blonds, qui est à côté de Nicolas, lui demande
« Coucou, avez-vous choisi de faire un film sur M. Saint-Aunay ?»
Parce qu'il me l'a demandé et que c'est un homme exceptionnel.
Et en quoi ?
C'est ce que je cherche avant de faire le film.
Je vois.
Françoise lui sourit. Nicolas se dit que si elle n'était pas Madame Saint-Aunay, il répondrait à ses avances.
Après le repas, on est allé au salon.
Le mari continue à boire abondamment. Nicolas est assis dans un fauteuil. Françoise s'est mise à côté de lui. Elle lui demande.
Sa vie. combien de temps un alcoolique?
Ça peut vivre très longtemps. L'alcool conserve.
S'il pouvait avoir un accident, je ferais une jolie veuve, n'est-ce pas?
Nous habitons près du lac.
On peut s'y noyer, faire un faux pas.
On dira, il était ivre.
6 mois après, 1 an après, nous pourrions nous marier.
Au Mexique.
Pourquoi le Mexique?
Comme ça,
c'est un rêve.
Malheureusement, les rêves restent des rêves, lui dit-il.
Bon, si l'on donne un petit coup de pouce à la vie.
Elle se lève, lui tend la main, elle dit,
venez.
Oui.
Vous ne le regretterez pas.
Il regarde autour de lui. Elle hausse ses épaules et lui dit,
ils sont tous ivres.
Ça ne t'empêche pas d'y voir.
Venez.
Il se lève et la suit.
Elle le mène jusqu'à sa chambre à lui. Ferme la porte. Quitte sa robe. Jette ses chaussures à terre. Et s'allonge sur le lit. Allez, venez, venez. Il s'avance près d'elle. Il est pris que dans un cercle où il ne peut en sortir. Une fois près du lit, elle se penche, le tire par la cravate et elle fait tomber sur elle.
Comme elle lui a dit, il ne le regrette pas. C'est vraiment une belle femme, une très belle femme, et qui a du tempérament.
Une heure plus tard,
lui remet ses chaussures.
Elle, après s'être habillée, elle se remet du rouge à lèvres et un coup de peigne. Elle lui demande
« Alors, heureux ?»
Il la retourne et la prend dans ses bras.
Elle lui dit « Tu vois, j'aurai tout à toi, tous les jours, si tu voulais. »
Il lui dit
« Je ne peux pas, c'est impossible.
Pourquoi ?»
Il me paye, il m'invite chez lui, il a confiance en moi.
Moi aussi.
Il suffit de donner un petit coup de pouce au destin. C'est simple.
Pourquoi ne le fais-tu pas si c'est si simple alors?
Elle se dégage et lui dit. Tu voudrais qu'une femme fasse à ta place ce que tu n'oses pas faire?
C'est pas moi qui ai eu cette idée. Elle hausse les épaules.
Tu veux m'avoir sans faire le moindre petit geste? Va-t'en.
Il est sorti de la chambre furieux et a retrouvé les invités au salon. Cinq minutes plus tard, elle est revenue vers lui. Soirée, il est décidé,
et dit à son autre, « Je dois m'en aller maintenant. » Le mari est surpris.
« Mais nous avons donné une chambre pour la nuit. »
« Je sais, je vous en remercie, mais j'ai du travail à faire demain. »«
Bien, comme vous voudrez. »
Françoise lui dit, « Comme c'est dommage que vous partiez, mais il faudra que vous reveniez la semaine prochaine et risquiez toute la fin de semaine. » Le mari lui dit,
« Ah oui, et là je l'exige, c'est indispensable pour notre film. »
« Bien, je viendrai. »
« Nous reverrons lundi, comme d'habitude. »
« Oui. »
Une fois dans la voiture, Françoise se penche à la portière et lui dit
« L'ange, nous nous reverrons. »
« C'est vous qui m'avez dit de partir. »
Et le épaules et le dire « Sans le caractère. »
Il est parti. Il a bien fait l'amour avec la femme,
mais c'est une sacrée garce dangereuse.
Le lendemain, dimanche, il reste chez lui à se demander ce qu'il va bien pouvoir faire de cette commande de film à la con.
Si au moins je pouvais montrer la femme telle qu'elle est, ce sera un sacré sujet. Oh, puis je vais lui dire que j'arrête. Je fais pas le film.
Le lundi matin, à 10h, il est dans le bureau de M. Satonnet.
Alors, satisfait de votre samedi ?
Oui, je vous remercie, c'était très bien.
Vous avez vu ma femme, belle femme et aimante. Il faudra bien la mettre dans le film.
Justement, j'ai bien réfléchi, et je pense que je ne pourrai pas faire votre film. Il n'est pas dans mes capacités. Je ne peux pas faire la biographie. Je ne suis pas fait pour faire les biographies. Je ne suis pas comme Orson Welles. Je n'ai pas son talent.
Je comprends. Vous êtes comme tous les artistes, de nature inquiète. Vous avez peur au moment où il faut vous lancer. Et puis c'est de ma faute. J'aurais pas dû vous parler d'Orson Welles. Mais je ne veux pas que vous vous arrêtiez en chemin. Votre film, vous allez le faire. Je vais vous soutenir. Je ne vous lâcherai pas.
Vous vivez seul, personne pour vous soutenir.
Pas de femme comme moi. Entre parenthèses, ma femme m'a dit beaucoup de bien de vous. Vous l'avez conquise. Elle aussi veut que vous fassiez ce film. Tant qu'il ne sera pas fait, je vous viendrai tous les jours et vous serez tous les jours avec moi. Même les jours de congé. Vous avez une chambre dans notre maison de campagne. Vous ne l'avez pas encore utilisée, mais vous verrez. Elle vous apportera de grandes satisfactions. Ma femme et moi allons nous occuper de vous, comme si vous étiez de la famille. Allons, vous ne pouvez pas refuser. Surtout que je vais mettre une petite fortune dans ce film. Tenez. Je sais, c'est que vous aimeriez pas jouer mon rôle. Alors, Alain Delon, oui, j'ai eu les moyens de me le payer. Ce sera formidable, Alain Delon dans mon rôle.
C'est-à-dire qu'Alain Delon est très coté. Cela veut vous coûter une fortune. Il vaudrait mieux un autre acteur.
Il est si cher que ça.
Depuis qu'il vient de tourner avec Visconti, Rocco et ses frères, il serait plus sage.
Qui alors? Gabin est trop vieux, Fernandel trop comique, Beauville trop empoté.
Un nouvel acteur qui se ferait l'effet, l'affaire est pas trop cher.
Il n'a joué que dans les seconds rôles.
Ventura, par exemple. Monsieur Satonnet soupire et dit
« Bon, et ben prenons le second rôle. Mais je vois que c'est vous qui avez choisi cet acteur. C'est que vous acceptez de faire le film. »
Je n'ai pas dit ça, j'ai simplement été pris par la passion de préparer un film. Mais je ne me sens pas du tout capable de faire un film sur vous.
Ma vie ne vous intéresse pas?
Je n'ai pas dit ça.
Bien, nous ferons le film. Et ne vous faites pas de soucis. Je vais continuer à vous raconter mon histoire.
Nicolas, le soir, est prêt à écrire une lettre à M. Satonnet pour lui donner sa démission si l'on veut. Avant d'aller passer la soirée chez ses parents, il écrit la lettre et la postera pour demain matin. Pendant le repas, il prend chez ses parents avec son père, sa mère, Denis et sa sœur. Son père lui demande
« Tu es en affaire avec M. Satonnet ?»«
Pas vraiment, mais il s'obstine à ce que je fasse un film sur lui. » Son père lui dit
« C'est bon, Satonnet est un homme très influent. En devenant son ami, tu me rends un grand service. Aucune bande ne pourra plus me refuser quoi que ce soit. »
C'est-à-dire, père, ce que j'ai décidé, c'est de refuser son affaire.
Si tu le fais, je suis perdu. Il va me fermer les banques. Ça t'a marché. Adieu les grands magasins. Je vais perdre 40% de mes affaires.
Je suis un vrai père.
Il n'a pas à être un vrai. Tu as à faire son film. Je demande de faire... Il te demande de faire un film? Il te le demande. Pas de faire la pute. C'est ton métier de faire des films. Alors fais-le.
Mais c'est un film qui ne m'intéresse pas.
Ah oui, toi tu connais des métiers où on fait ce que l'on aime. Que ce que l'on aime faire. Toi ton métier c'est de faire des films. Eh ben, des fois tu en fais des que tu aimes, et d'autres que tu aimes moins. Moi, je fais des sacs que j'aime et d'autres que j'aime pas du tout. On fait jamais ce que l'on veut quand on travaille. Toi, tu fais des films, c'est pas pour t'amuser, c'est un travail. Alors tu dois faire des films qui ne t'amusent pas. Et dis-toi bien qu'un jour, tu seras bien content de faire de la publicité pour faire rentrer de l'argent dans ton compte en banque. Là, c'est pas de la publicité, mais un film. Alors fais-le. Cela te permettra de gagner de l'argent. Et avec cet argent, de faire un film qui te plaira, que tu aimeras. Et en même temps, tu m'évites la ruine. Voilà.
Nicolas soupire. Bien, je le ferai, ce certain des films.
Fais-le le plus vite possible. Comme cela, tu seras débarrassé.
Et le soir, en rentrant chez lui, il déchire la lettre qu'il avait écrite à M. Satonnet. Thank you.
Le samedi arrive. Il est obligé d'aller chez Satonay. L'accueil est très chaleureux vis-à-vis de la femme. Dans l'après-midi, après le déjeuner, elle lui propose d'aller faire un petit tour à cheval. Il se sent obligé d'accepter. Avoir galopé, elle le fait arrêter dans un petit bois pour s'asseoir dans l'herbe. Elle cherche à le séduire, à l'exciter. Avec un bout d'herbe, elle lui chatouille le cou. Laissez-moi. Elle lève les épaules, s'allonge, lui caresse le bras. Vous ne voulez pas? Il hausse ses épaules. J'ai pas la tête à ça. De ses deux mains, elle se pend à son cou. Je vais vous mettre la tête en place, moi. Vous allez voir. Elle le force à se retourner et se coucher sur elle. Il essaye de se dégager. Elle le tient bien serré et lui donne un baiser sur les lèvres. Puis le plaque contre lui. Demi-heure plus tard, ils sont debout à se ranger. Elle remet son corsage en place, lui ferme sa braguette. Elle lui demande « Ça va mieux ?» Il ne répond pas. Elle s'approche de lui et lui dit « Je vous aime. » Il baisse les yeux. Elle continue « Mon mari m'a fait légataire universel. Et s'il lui arrivait quelque chose, je serais libre. » Nous formerions un joli couple, non, tous les deux? Et puis, j'aimerais faire du cinéma moi aussi. Il lui dit, décidément, vous avez tous envie de faire du cinéma, et moi je suis votre prisonnier. Idiot, laisse-moi faire. Et il s'en retourne. Ne se parle plus ou que pour dire des banalités. Le lendemain, après-midi, M. Satonnet demande à Nicolas de venir avec lui se promener dans les bois.
Ma femme est fatiguée de mes poils. Vaut mieux la laisser seule. C'est elle qui, elle-même qui m'a dit que je devrais aller me promener avec vous. Les femmes sont fragiles des nerfs.
Nicolas lui dit, je veux bien me promener avec vous, surtout que je ne connais pas les environs.
Nous allons aller dans les bois. Ils viennent de couper les arbres, ça doit sentir très fort.
Et ils y vont. Il fait doux. Ils marchent tous les deux seuls dans les bois. Nicolas, malgré tout, qu'il soit avec M. Satonnet, sent une grande impression de solitude et de solitude étrange, un peu angoissante, comme s'il sentait une présence invisible. L'impression que l'homme qui est à côté de lui n'est pas la présence qu'il ressent. À une clairière où les arbres ont été coupés, le chemin où il se trouve est en bas d'une hauteur et en haut d'un petit précipice. Une descente raide, remplie de grosses pierres, que l'on s'arrête au milieu du chemin pour voir le vol d'un oiseau. Et si ça tenait, est un peu plus loin à regarder le bas du précipice.
Tout à coup, dégringole de la pente du côté de M. Satonnet une dizaine de troncs d'arbres. Nicolas panique, fait le geste d'aller vers M. Satonnet. Et cela s'est fait si rapidement que les troncs d'arbres l'ont fait descendre. M. Satonnet, dans leur course folle, avec eux dans le précipice.
Nicolas se penche et voit M. Satonnet, le corps contre les rochers qui l'a arrêté. Il ne bouge pas. Le corps plaqué de face contre le rocher.
M. Satonnet!
Nicolas, avec précaution, tente de descendre jusqu'à vers lui. La pente est raide, remplie de cailloux qui font glisser. Les gourdins sont mis de travers. Après même précaution, il est arrivé vers le corps.
Je s'attonnais.
Il le touche, le retourne, le visage en sang. Là, il ressemble à un homme mort. Nicolas repose le cadavre doucement, il ne peut rien faire. Il tente de remonter. Il remonte difficilement, ça glisse à cause des cailloux et c'est très en pente. Il voit sur le chemin, égratigné, essoufflé, en poussière, il court vers la maison des Satonnet pour annoncer la nouvelle et téléphoner pour les pompiers, etc. Au fur et à mesure qu'il s'approche de la maison, il se sent gêné. Comment dire ça? Comment apporter une mauvaise nouvelle aussi terrible? Et la pauvre Françoise, mon Dieu, la pauvre Françoise.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur, donc c'était la 19e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.